Bonjour Tiffany et très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, c'est le deuxième moment de notre série consacrée à Charles Dickens dans la Compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Kaczmarek, Antoine Zumsteg et Emmanuel Morse-Duncan. C'est un homme dont l'enfance ne passera jamais vraiment, dont nous parlons ici jusqu'à jeudi. Un homme qui fut un jeune garçon humilié, envoyé par ses parents travailler comme ouvrier dans une fabrique de cirage, forcé de quitter l'école pour aider sa famille à survivre et dont le sentiment d'abandon ne le quittera pas jusqu'à sa mort à l'âge de 58 ans. En juin 1870, Jean-Pierre Hall nous en parlait hier dans une émission biographique à retrouver en podcast. Demain, c'est au fantôme de Dickens auquel nous nous intéresserons et ils sont nombreux à hanter ces récits, comme nous le racontera Isabelle Gadouin de l'Université de Poitiers. Enfin jeudi, c'est de saison, nous parlerons des contes de Noël de Dickens, lui qui est totalement associé à ce genre. Ce sera avec l'écrivaine Dominique Barberis. Avant cela, toujours jeudi, nous aurons évoqué deux autres de ses livres avec l'universitaire Laurent Bury, David Copperfield et Le Comte des Deux Villes. Et aujourd'hui, l'intérêt de Dickens pour tous ceux qui sortent de la norme ne s'est jamais démenti. Criminels, prostituées, tous ceux que l'on peut qualifier de déviants ont intéressé l'écrivain qui a contribué à influencer le regard que la société victorienne portait sur ces déviances, comme nous allons le voir aujourd'hui avec Nathalie Vanfasse, professeure de littérature britannique à l'Université de Provence et auteure de Charles Dickens, Entre normes et déviances, aux presses universitaires de Provence en 2007. On lui doit également le livre La plume et la route, Charles Dickens, écrivain voyageur, aux éditions textuelles en 2017. Nous en parlerons en seconde partie. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs.
Le 19e siècle nous avait donné l'idée d'un homme très équilibré, de très bonne humeur, jovial. Et on a découvert peu à peu qu'il y avait aussi un homme très sombre et quelquefois un peu inquiétant chez Dickens.
Terrifiant même.
Oui, je le crois certainement, avec un goût pour le terrifiant et pour le macabre. Pour la plupart des gens, Dickens, c'est l'auteur de Pickwick. Et je me souviens que dans un roman de Zola, je ne sais plus lequel, il y a un mari qui donne à sa femme des livres de Dickens à lire parce qu'il trouve que c'est assez bon pour elle. C'est un romancier pas très sérieux, et puis c'est plutôt enfantin, voilà l'opinion qu'il avait de lui. Mais ce n'est pas du tout ça. C'était étrange le monde de Dickens. Pensez que son premier grand roman est un roman sinistre, Oliver Twist. C'est quelque chose d'épouvantable, c'est un cauchemar.
Bonjour Nathalie Vanfasse.
Bonjour.
On entendait l'écrivain Julien Green au micro de Roger Vrigny dans une archive de 1972. Julien Green qui soulignait au fond la noirceur de Dickens, qui était, c'est vrai, un personnage à la fois angoissé, mais aussi exalté. C'est comme ça que vous le voyez, vous aussi?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on pense aux Pickwick Papers, à un Dickens drôle, truculent, mais il y a aussi effectivement cette face sombre, angoissée. Ces romans donc qui suivent une veine un peu gothique. Je pense effectivement à Oliver Twist qui a des côtés très drôles. La bande de Fagin, en fait, par moments, est extrêmement amusante. Mais en même temps, il faut voir la réalité que cela recouvre, en fait. C'est quand même des gamins des rues, des enfants abandonnés. Donc une criminalité quand même qui est d'une rare violence par moments, notamment une évocation de la prostitution et de la violence. violence contre les femmes qui est extrêmement troublante. Donc, ne serait-ce que par les marques que cela peut causer sur le corps des femmes battues, par exemple. Voilà.
Donc ça, c'est sa littérature. Mais est-ce que Dickens aussi pourrait être un déviant, et ne serait-ce que parce que, au fond, c'est quelqu'un qui, par sa capacité d'imagination, par ses emportements, par la force de sa volonté aussi, est complètement hors norme, hors de la norme. Donc un peu dans une forme de déviance, Nathalie Vanface.
Dickens lui-même avait beaucoup de problèmes avec la norme, parce que lui-même n'arrivait pas vraiment à se situer dans la société à laquelle il appartenait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a une enfance difficile, il a subi le déclassement social, en fait. Donc il a toujours cette angoisse de cette déchéance sociale, cette envie de gravir les échelons de la société, d'arriver au sommet. Il a un problème d'appartenance, en fait. Et de ce fait, il est un petit peu, voilà, en dehors de la norme. Et il a du mal à y entrer. Et ce n'est peut-être même pas souhaitable, en fait, puisque c'est finalement cette qualité qu'il a de prendre la norme en considération, mais finalement de ne jamais y entrer tout à fait, qui fait toute l'originalité à la fois de son œuvre et de sa personne.
C'est ce qui fait de lui un grand écrivain et sans doute celui qui reflète le mieux, finalement, parmi tous les écrivains de l'époque victorienne, cette tension, finalement, entre normes et déviance.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment cet équilibre entre à la fois des peintures de la respectabilité victorienne, de la morale victorienne, de personnages parfaits, mais parfois un peu ternes, un peu insipides. Et puis à côté, ces personnages grotesques, donc éclatants, par exemple, par leur déformation à la fois physique, leur langage qui ne rentre pas dans la correction donc de l'époque, qui était exigée par l'époque. Tout ça fait finalement de Dickens un écrivain tout à fait particulier.
Mmh. Alors évidemment, on a l'impression que votre sujet sur la norme et sur la déviance, on ne peut pas le détacher de cette époque-là et de cette nation-là, l'époque victorienne, la nation anglaise est évidemment étendue à son empire. Qu'est-ce qui, finalement, dans le contexte, rend la problématique que vous soulevez si importante, Nathalie Vanface?
Je crois que cette époque-là est une période de bouleversement très important. Donc il y a une industrialisation massive, une urbanisation générale. C'est quand même le pays qui est très en avance sur les autres pays du monde, le centre du monde. Et une perte de repères, je crois, pour les Victoriens à cette époque, qui fait qu'ils sont vraiment obsédés par l'idée de trouver finalement de la stabilité à travers ces définitions.
Donc il y a un trait d'époque.
Absolument, absolument. Et cette obsession notamment de la règle, de la norme, qui leur permet de retrouver des repères stables à tous les niveaux, même au niveau, par exemple, de la langue, puisque du fait, par exemple, des classes sociales qui... donc les classes dominantes, finalement, perdent un petit peu de leur domination. Les classes ouvrières et la classe bourgeoise montent. Il y a moins de distinctions et donc on essaye de figer, par exemple, la langue de manière à ce que de la normaliser, ce qui n'était pas le cas avant. On acceptait tout à fait la déviance avant, par exemple la déviance linguistique. On pouvait prononcer un mot de diverses manières sans que ça pose problème. À la période victorienne, on essaye de figer tout cela, justement peut-être pour se rassurer. Puis il faut se rappeler que c'est la période de Darwin aussi, une remise en cause de questions religieuses. Donc il y a vraiment une instabilité qui fait que la société victorienne est obsédée par ces règles. Également aussi, la question de la criminalité, parce qu'à l'époque, la question de la criminalité a donné lieu à des statistiques, ce qui n'était pas le cas auparavant, à la création d'une force de police, et a donc l'impression que peut-être il y avait plus de crimes qu'avant, ce qui n'était pas forcément vrai. Donc là aussi, cette idée qu'il fallait éliminer cette criminalité, et on était convaincu que le progrès social, parce que ça c'était aussi une grande croyance victorienne, allait permettre d'en venir à bout, comme on allait pouvoir normaliser, vous avez parlé de l'Empire, les colonies, on allait pouvoir les domestiquer de la même façon. Donc il y avait cette volonté de contrôle.
Donc c'est une société déstabilisée qui tout d'un coup se raidit. Oui. Évidemment, on a envie de faire un parallèle avec la société déstabilisée aujourd'hui par la mondialisation. Est-ce que vous le faites aussi ?
Absolument, absolument. Je crois que Dickens est incroyablement contemporain en ce sens. On retrouve des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, donc dans cette déstabilisation. Et puis peut-être aussi donc quelque chose que je trouve très amusant, mais ce repli sur soi que l'on peut trouver. Donc par exemple dans Great Expectations, il y a un personnage qui est un personnage qu'au début on ne remarque pas forcément, qui s'appelle Wemmick, dont la bouche, qui est le clerc de l'avoué, dont la bouche se referme comme une boîte aux lettres. Et en fait, et qui habite avec son vieux père dans une maison qui paraît totalement improbable, une espèce de château fort avec un pont-levis. Et en fait, Wemmick, au fond, nous ressemble aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui habite la banlieue. Donc c'était quelque chose qui apparaissait à l'époque, la banlieue londonienne, et qui a séparé sa vie privée de sa vie publique, en fait. Et d'où cette bouche qui se referme quand il arrive au travail comme une boîte aux lettres. Il est très expansif chez lui, beaucoup plus renfermé quand il est au travail. Et cette vie qu'il a avec son vieux père ou dans sa maison où il cultive son jardin, finalement, c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui le cocooning, ce repli qu'on a contre l'agression du monde extérieur.
Et puis contre l'agression de ce qui représente sans doute une déviance aussi pour la société victorienne, qui est la pauvreté.
Tout à fait, la pauvreté et puis cette volonté qu'avait la société victorienne d'appliquer à tout le monde des principes utilitaristes. Hein, c'est ce que Dickens dénonce dans Oliver Twist. Donc on considère que la pauvreté est en fait une pathologie. Hein, on est coupable d'être pauvre et pour cela il faut donc punir la personne qui est pauvre en créant ses hospices et dépôts de mendicité qui sont régis selon les principes de la philosophie utilitariste, donc des principes purement comptables que Dickens dénonce en fait, puisque lui veut insuffler dans cette gestion économique des principes humains, des principes plus généreux.
Alors l'autre médecin de la pauvreté, c'est évidemment le magistrat. On l'entend ici dans un extrait d'Oliver Twist, lu par Michel Bouquet.
À travers des interruptions nombreuses et des insultes réitérées, Mr. Brownlow parvint à exposer le cas. Il fit remarquer que dans la surprise du moment, il avait couru après l'enfant parce qu'il l'avait vu courir. Et il exprima l'espoir que si le magistrat croyait que ce garçon, quoique n'étant pas le voleur réel, avait des attaches avec les voleurs, il voudrait bien le traiter avec autant d'indulgence que la justice le permettait. On lui a déjà fait du mal, dit le vieux gentleman comme conclusion. Et je crains, ajouta-t-il avec force en regardant la barre, je crains réellement qu'il ne soit malade. Ah oui, j'ose le dire, reprit Mr. Fang en ricanant. Ah non, pas de vos trucs ici, jeune vagabond. Ça ne prend pas. Quel est votre nom ? Oliver essaya de répondre, mais sa langue n'obéit pas. Il était pâle comme un mort et il lui semblait que toute la salle tournait autour de lui. Quel est votre nom ? Endurci coquin, demanda Mr. Fang. Agent ! Quel est son nom ? Ceci s'adressait un gros vieux en gilet rayé qui se tenait debout près de la barre. Il se pencha vers Oliver et répéta la question, mais voyant que le garçon était réellement incapable de comprendre et sachant que l'absence de réponse ne ferait que rendre le magistrat plus furieux et ajouter à la sévérité de la sentence, il s'en rapporta au hasard. « Il dit que son nom est Tom White, votre honneur, » prononça cet attrape-voleur plein de bon sens. « Il ne veut pas parler, n'est-ce pas, » dit Fang. « Très bien, très bien !» « Où demeure-t-il ?»« Où il peut, votre honneur, » répliqua l'agent de police, faisant encore semblant de recueillir la réponse d'Oliver. « A-t-il son père ou sa mère ?» demanda Mr. Fang. « Il dit qu'ils sont morts dans sa petite enfance, votre honneur, » dit l'agent, hasardant la réponse habituelle. À ce moment de l'interrogatoire, Oliver leva la tête et, regardant autour de lui avec des yeux suppliants, il murmura une timide prière, implorant un peu d'eau à boire. « Farce et sottise, » dit Mr. Fang, « n'essayez pas de vous moquer de moi !» « Je crois qu'il est réellement malade, votre honneur, » intervint l'agent. « Je sais ce que je dis !» fit Mr. Fang. « Prenez soin de lui, agent, » dit le vieux gentleman en levant instinctivement les mains. « Il va tomber. Écartez-vous, agent !» cria Mr. Fang. « Qu'il tombe, si ça lui plaît !»
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait d'Oliver Twist, Nathalie Vanface. Qu'est-ce qui vous inspire cet extrait ?
C'est un extrait qui est très célèbre en fait. Hein. Donc c'est à la suite de l'arrestation d'Oliver qui a été en fait pris on pense en flagrant délit de vol d'un mouchoir. À l'époque, les mouchoirs étaient des biens extrêmement précieux, hein, qui donnaient lieu à un trafic très intense. Donc Oliver se retrouve pris en flagrant délit de pickpocket, alors qu'en fait, ce sont deux autres enfants qui ont commis ce crime. Et il se retrouve face à un magistrat extrêmement intolérant, qui est le magistrat Mr. Fang. Donc on mesure.
Lui, c'est la norme. Vraiment,
voilà l'incarnation absolue de la norme. Et on voit bien, en fait, Olivier est évidemment incapable de répondre aux questions et un policier souffle les réponses. Et les réponses du policier sont beaucoup plus humaines. Donc, par exemple, où habite-t-il ? Et la réponse, c'est là où il peut. Et on voit en fait toute la bienveillance de Dickens face à ces gamins des rues, en fait, qui sont des enfants, en fait, souvent de petits hommes, hein, ne sont plus des enfants. Hein. Donc, quand on voit des photos de l'époque, on voit que ce sont des petits hommes, des petits adultes, en fait. Qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois qu'Oliver Twist est un roman qui n'est pas forcément considéré peut-être comme le roman le plus abouti de Dickens, parce que c'est un roman de jeunesse, mais on sent déjà toute cette empathie qu'a le romancier pour la situation de pauvreté dans laquelle ses enfants se trouvent.
Mais il ne s'arrête pas à l'empathie, il ne s'arrête pas au constat. Les romans de Dickens sont un aspect performatif, parce que Dickens, par aussi l'immense popularité qu'acquiert ses romans et puis ses personnages, va produire lui aussi de la norme, va produire une nouvelle norme, va influencer la loi, Nathalie Vanface.
Oui, c'est tout à fait le cas, puisque l'idée de Dickens, c'est de dépeindre des réalités que les victoriens ne souhaitaient pas forcément voir. Hein, donc il le dit d'ailleurs dans ses préfaces à Oliver Twist en particulier.
Donc ouvrir les yeux.
Voilà, montrer aux gens une réalité que les gens côtoient parfois, mais préfèrent ignorer. C'est un petit peu le cas aujourd'hui encore. Hein. Et donc vraiment faire voir ces choses et montrer en fait que cette déviance qui est issue de ces quartiers mal famés n'est peut-être pas le fait des gens qui y vivent, mais que c'est peut-être aussi que ça nécessite peut-être un certain nombre de politiques publiques qui vont réformer la situation dans ces quartiers et permettre justement une amélioration notable.
Alors vous parlez de réformer, vous ne dites pas qu'il faut révolutionner, parce que ça n'est pas tellement la manière d'agir de Dickens. C'est vraiment un réformateur, ça n'est pas quelqu'un qui renverse la table, et ça, on le lit aussi entre les lignes quand il prend des chemins détournés pour faire évoluer les mentalités sans pour autant heurter le lecteur. Il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie presque de la part de Dickens, qui veut vraiment faire aboutir ses idées et qui donc ne veut pas braquer son lecteur.
Oui, on le voit de manière extrêmement frappante, par exemple dans le langage de ces personnages de la rue, les street folks, comme on les appelait à l'époque, si on reprend la terminologie du sociologue Henry Mayhew. Il les fait parler, mais il contrôle quand même leur langage pour éviter qu'il y ait des écarts trop importants. Ne serait-ce que, par exemple, la manière dont la prostituée est décrite, elle n'est jamais décrite, enfin, il n'utilise jamais le mot prostituée, il ne dit jamais Nancy is a prostitute. Il va nous dire elle est haute en couleur, la couleur c'est très important, elle a des manières extrêmement, disons, directes, elle est habillée de manière un peu négligée. Et tout cela, ce sont des indices qui nous permettent de comprendre que c'est une prostituée, mais il ne va jamais le dire. Il m'a jamais prononcé le mot parce que c'est quelque chose qui froisserait son auditoire. De même qu'il y a une scène absolument savoureuse, en fait, où après un cambriolage manqué, où Oliver se retrouve dans une nouvelle famille, les gens racontent ce cambriolage et l'un d'entre eux en arrive au moment où il va prononcer le mot pantalon et quelqu'un dit « ladies present », des femmes sont présentes. Donc là, on arrête tout de suite parce que c'est un mot indécent. Voilà. Donc cette manière dont Dickens essayait de présenter la réalité sans phare, mais en même temps se sentait contraint pour que ses lecteurs le suivent, de contrôler un peu la situation.
Ça lui va bien finalement, parce qu'on a l'impression que lui-même, il est en permanence entre une volonté d'être lui aussi un bourgeois, d'être lui aussi dans la norme, de ne pas choquer les bourgeois, et en même temps un regard sur les classes sociales les plus défavorisées, qui a un regard d'amitié, ou peut-être même paternaliste quelquefois.
Oui, je crois que paternaliste est plus juste qu'un regard d'amitié, parce qu'il avait quand même, il avait toujours très peur de retomber dans cette situation où il avait côtoyé des ouvriers dans sa jeunesse, l'épisode dont vous parliez au tout début. Et je crois que le paternalisme est en fait un mot qui correspond bien à son approche.
Ouais, qui correspond aussi au 19e siècle.
Tout à fait.
Alors il y a pas que du progressisme dans la manière dont Dickens voit la société. Par exemple, Nathalie Vanface, sur la question de la morale. C'est quand même quelqu'un qui apprécie, valorise la morale.
Oui, il la valorise, mais curieusement, ces personnages qui sont les plus moraux ne sont pas forcément les personnages les plus attrayants de ces livres. Ce sont souvent des personnages peut-être un petit peu ternes. Donc quand on voit l'intérieur de la famille, enfin de chez Mr. Brownlow avec Mrs. Bedwin, on a du mal finalement à vraiment prendre du plaisir à lire la vie de ces personnages, de même que Rose Maylie est une femme parfaite. Elle est belle, elle est dévouée, elle représente l'idéal un petit peu de l'ange du foyer, au point même où elle est tellement éthérée qu'elle devient un ange presque sans corps, qui représente d'ailleurs un épisode un peu douloureux de la vie de Dickens, enfin la mort de sa belle-sœur, mais ça c'est quelque chose donc d'un peu annexe. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les personnages qui enfreignent la morale, par exemple Fagin avec les jeunes enfants, qui finalement la parodie, puisque c'est le modèle de la famille, où Fagin est une forme de figure paternelle pour ses enfants, mais en fait, finalement, l'éducation qu'il leur donne est une éducation qui consiste à apprendre à voler, et le travail qu'il leur fait faire après, c'est le travail qui est du vol, sont finalement beaucoup plus intéressants, je pense, pour le lecteur.
Mais on a quand même l'impression que, pour lui, la respectabilité, le sérieux, le travail, c'est quand même des choses qui comptent, dans sa vie privée et aussi dans son œuvre.
Oui, et je crois que ça le devient encore plus clairement, peut-être, par exemple, dans le roman Great Expectations, où... finalement, Pip passe d'une morale à une autre, en fait. La première morale, qui est celle qu'il adopte quand il pense qu'il va devenir un gentleman, qui va tenir son rang, c'est plutôt une morale aristocratique qui est plus basée sur l'idée que la fin justifie les moyens. Donc on peut être extrêmement cynique. Et quand il découvre enfin, à la fin du roman, que finalement, cette vie-là est une vie qui a des sources inavouables, en fait, a des origines inavouables, il bascule vers une autre morale qui est la morale victorienne, la morale de la classe moyenne, de la classe bourgeoise, qui est effectivement basée sur le sérieux, le travail. Il se met à travailler alors qu'avant, il avait reçu une éducation classique, il se contentait de dépenser.
Donc c'est vraiment un roman paradis. Pour vous, puisqu'il y a cette oscillation constante entre la morale et la déviance. Et finalement, où est-ce qu'il se situe Dickens, d'après vous ?
Eh bien, je crois que si on regarde Great Expectations, on voit bien que la morale qu'il encourage, en fait, qu'il soutient, c'est quand même cette morale bourgeoise, cette morale du travail, cette morale qui correspond à l'idéal de self-help, qui est, alors comment traduire ça,
c'est un livre, voilà,
aidez-vous vous-même, donc c'était un best-seller de l'époque, l'idée d'une initiative individuelle, qu'à force de travail...
Donc un peu libérale aussi, voilà, à l'anglaise, quoi.
Voilà, c'est l'idée du self-made man, et je crois que c'est l'idée du self-made man, mais qui réussit quand même grâce à l'honnêteté, et pas justement grâce à des moyens cyniques.
Thank you.
compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Charles Dickens avec Nathalie Vanfass. On parle depuis le début de déviance, mais on n'a pas encore vraiment parlé de la suprême déviance qui est le crime. Le crime profond, l'assassinat. Est-ce que Dickens n'entretenait-il pas des relations profondes, un peu sous-jacentes, avec cette idée du crime? Comment caractériseriez-vous sa relation avec le crime?
Alors, je crois qu'il y a différentes dimensions ici. En fait, il y a le crime sordide. Donc celui qu'on voit effectivement, donc le meurtre de Nancy, où Sykes, son souteneur, la tue avec un bâton et il reste à la fin des cheveux et du sang sur le bâton en question. Donc là, c'est vraiment le détail absolument sordide.
Et le détail qui fascine l'écrivain.
Voilà, hérité des Newgate Novels. Et puis, il y a cette obsession de la prison qu'avait Dickens, avec notamment... ce qui se passait dans la tête des prisonniers, donc dans différents systèmes, un système où ils pouvaient travailler ensemble mais sans communiquer, et un système auquel Dickens était foncièrement opposé, c'était un système qui isolait complètement le prisonnier. Il l'a vu notamment quand il est allé aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Le prisonnier devenait fou, et ça c'est quelque chose qui perturbait beaucoup Dickens. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est peut-être pas le plus important au fond. Donc c'est vrai que cette fascination des bas-fonds du crime est omniprésente dans l'œuvre de Dickens, mais il y a un crime qui est peut-être encore plus grave, peut-être que les autres chez Dickens, et il en parle dans Great Expectations, quand Pip évolue au cours du roman, donc il rencontre des criminels, des bagnards, et à la fin du roman, Pip se rend compte à quel point il a été lâche vis-à-vis de Joe Gargery, son père, si vous voulez, c'est la figure paternelle, et il dit, finalement, il n'y a rien de pire que d'être escroc vis-à-vis de soi-même. Et je trouve cette espèce de lâcheté vis-à-vis de soi, finalement, c'est peut-être le crime ultime, en définitive, pour Dickens.
On sait que le père de Dickens a été emprisonné. Alors, ce n'était pas une prison comme celle où on enfermait les criminels de sang. Mais enfin, il y a quand même un rapport, sans doute, entre le fils et le père. Et... ce thème de la prison qui a forcément été important pour Charles Dickens.
Oui, cet épisode fondateur en fait du séjour en prison. Donc il faut, je crois, préciser que à l'époque, donc l'emprisonnement pour dette qui n'existe plus maintenant parce que maintenant on fait faillite en fait. Donc, donc cet emprisonnement pour dette en fait, c'était des prisons un peu particulières où il y avait une véritable vie
c'était
à l'intérieur
ouverte,
de la prison.
En réalité.
Voilà. Les prisonniers étaient enfermés, mais par contre les familles pouvaient aller venir et vivre avec le prisonnier. Donc c'était extrêmement particulier, mais ça a quand même été vécu effectivement comme une humiliation. Et à la suite de ça, tout au long de sa vie, Dickens a toujours été fasciné par les prisons. Il y a des scènes de prison, même dans Pickwick, donc il y a The Pickwick Papers. Il y a des scènes de prison, donc Little Dorrit évidemment est un cas tout à fait notable.
Mais est-ce qu'il a réussi à faire changer la loi sur un certain nombre de points? Est-ce que son influence est allée jusque-là?
Alors, changer la loi sur l'emprisonnement, ben je pense que notamment, par exemple, il a agi de manière certaine contre cette réforme du système judiciaire qui voulait qu'on isole les prisonniers de manière à les rendre plus dociles. Et lui, en fait, a montré que ça ne faisait que conduire à la folie. Et ce système, en fait, a, donc, comme l'a montré mon collègue Neil Davy de l'Université de Lyon qui travaille sur ces questions, et ce système a été finalement abandonné. Donc oui, je pense qu'il a eu un impact non négligeable à la fois sur la loi concernant les prisons et puis sur d'autres lois, comme par exemple la loi sur la pauvreté et les dépôts de mendicité.
Qui consistait à dire qu'au fond, on ne devait pas assister les pauvres au-delà du minimum de ce qu'ils pourraient gagner s'ils travaillaient.
Oui. En fait,
un débat tout à fait actuel.
Absolument. On est vraiment frappé en lisant Dickens à quel point voilà, cette œuvre trouve des résonances, même si voilà, on ne peut pas l'assimiler au monde d'aujourd'hui, mais il y a tellement de résonances sur des questions sociales si importantes encore aujourd'hui.
Un mot peut-être sur la prostitution et sur la question sexuelle, parce que Dickens lui-même n'était pas un déviant, mais
peut-être pouvait-il se ressentir comme étant un déviant du point de vue amoureux, sexuel. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose qui résonne entre ce qu'il écrit, par exemple, sur les prostituées, sur les jeunes filles, et sa vie qui est une vie amoureuse, vraiment entre la rigueur et en même temps le désir, peut-être pour des jeunes femmes. Quelque chose de très tenu, comme ça, une espèce de point douloureux chez lui.
Alors Dickens, effectivement, a, dans sa vie, a des liens avec les prostituées qui sont, voilà, qui effectivement méritent d'être décrits. Non pas parce qu'il fréquentait forcément des prostituées, mais il était notamment lié à une personne qui était une philanthrope appelée Angela Budd Coutts, en fait, qui essayait de recueillir les prostituées pour les sauver justement de leur situation. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut rappeler que la vie personnelle de Dickens et sa vie maritale ont été un peu un désastre. Mmh. Donc après quelques années très heureuses avec Catherine Hogarth, en fait, c'est allé de mal en pis jusqu'au moment où il s'est séparé de sa femme et il a rencontré une jeune actrice, en fait. Voilà, donc je crois que Dickens était quand même assez conscient des difficultés finalement que la norme pouvait imposer, puisqu'il en souffrait lui-même dans sa vie personnelle, de la condition féminine aussi, même si la condition qu'il a réservée à sa femme n'était pas forcément des meilleures. Mmh. Donc là aussi, un des paradoxes du romancier, en fait.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Vanfasse, on va continuer de parler de Dickens avec vous dans quelques minutes. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Anne-Sophie Rouveloux de la revue Page des libraires. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Vous êtes lectrice, vous, de Charles Dickens ?
Oui, je suis lectrice. J'avais beaucoup apprécié Les Grandes Espérances. J'étais très, très attachée au personnage de Pip, jusqu'à éprouver de la fascination aussi pour rester là. Hein. Mais ce que j'avais aimé aussi chez Dickens, c'est son dernier roman resté inachevé, du coup, Le Mystère Edwin Drood, et surtout tout ce que ça a généré chez plein d'auteurs qui voulaient absolument trouver des suites,
notamment des
solutions.
Notamment des auteurs de science-fiction.
Exactement. Je pense notamment à Dan Simmons. Et Dan Simmons, pour Drood, que j'avais adoré, que je trouvais excellent, ce qui était génial, c'est qu'il est parti d'un événement clé, en fait, de la vie de Dickens. C'est-à-dire qu'en 1865, si je dis pas de bêtises, il a survécu, en fait, à un accident de train dramatique. Mm-hmm. Et donc, Dan Simmons a pris ce point de départ pour partir dans une sorte d'explication où on croise carrément cet étrange personnage de Drood et on part comme ça dans les bas-fonds de Londres. Et ce qui est génial aussi, c'est que l'histoire, elle est racontée par Wilkie Collins et qu'il est constamment sous laudanum pendant toute l'histoire. Donc ça donne quelque chose de très, très puissant.
Ah bon, on est dans la déviance là. Et le côté bas-fond, misère, justement, c'est quelque chose qui vous touche ?
Alors oui. Et puis surtout, là, vous parliez d'Oliver Twist. Oliver Twist m'a extrêmement choqué, j'ai envie de dire, pour deux aspects, notamment que je vais pouvoir justement mettre en regard avec une sélection d'ouvrages que j'ai faite plus contemporains, du coup, sur le même thème. Mais je me souviens de moments où je trouvais que les enfants, enfin, leur misère ne les rapprochait pas, en fait. Ils ne s'entraidaient pas. Et je me rappelle d'un épisode, je crois que c'est, il s'appelle Richard, un petit jeune homme qui a grandi comme ça avec Oliver Twist au dépôt de mendicité. Et quand il le recroise, il lui dit, bah, écoute, voilà, je suis très malade, je vais mourir, je te souhaite une belle vie. Je te bénis, et de voir cette misère dans la bouche d'un enfant, dite comme ça, sans phare, si d'une manière si frontale.
Alors pourquoi cette dureté, Nathalie Vanfasse ?
Alors ça, je crois que effectivement, c'est un petit peu le côté un petit peu mélodramatique aussi. Hein. Donc on joue Dickens a vraiment un don pour jouer sur la fibre sensible de ses lecteurs. Hein. Donc il sait trouver les mots
procédé,
pour je crois que c'est vraiment il veut nous toucher et donc il utilise à la fois cette dureté et puis aussi ce côté mélodramatique pour nous émouvoir, et il réussit très bien.
Alors, exactement. Est-ce qu'il y a du mélodrame dans les critiques que vous faites pour la revue Page des libraires,
alors,
vous, ou alors les autres libraires qui contribuent évidemment à cette revue ?
Alors vous allez voir du coup que moi pour la sélection que j'ai faite, qui est donc du coup sur le thème de l'enfance et de grandir dans des conditions un peu extrêmes, dans la précarité, j'ai choisi trois œuvres qui expriment ça d'une manière bien différente. Mais tout d'abord pour le dernier, juste un petit rappel sur le dernier numéro du coup de la revue Page des Libraires, on a l'habitude pour le numéro de fin d'année de faire des sélections. Donc là pour le coup...
Pour les fêtes évidemment.
Exactement, voilà, sur des thèmes bien précis. Donc moi là du coup j'en ai fait une sur le fait de grandir dans une extrême précarité. Vous allez voir que chaque œuvre est bien, bien différente.
Alors, on vous écoute.
Alors, tout d'abord, il y a un ouvrage qui s'intitule « Lettres de mon enfance » d'Emma Reyes, qui est paru chez Pauvert. Et Reyes, c'était une peintre colombienne renommée, qui était amie, par exemple, de Gabriel Garcia Marquez. Et donc, ce recueil, c'est un recueil de lettres qu'elle a écrites à un ami entre 1969 et 1997, où elle raconte son enfance en compagnie de sa sœur. Son enfance était particulièrement dure parce que ces deux petites filles étaient issues de parents illégitimes et elles ont été élevées par une femme qui, lorsqu'elle ne les laissait pas vagabonder dans les rues, elle les employait à travailler dans une chocolaterie alors qu'elles n'avaient que 5 et 6 ans.
Donc c'est du Dickens complètement.
Complètement, surtout qu'en plus la mère finit par les abandonner et qu'elles vont être recueillies par des sœurs dans un couvent. Et en fait, ce que je voulais dire ici, c'est que Emma Reyes, elle va jamais verser dans le pathos. Son ton, il est jamais larmoyant. C'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'elle va, elle va vraiment restituer un peu l'innocence de l'enfance en parsemant un peu de moments un peu drôles et cocasses. Je me souviens par exemple d'un moment où les deux petites filles, elles vont grimper en haut des arbres pour apercevoir Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus vivait dans les nuages. Voilà.
Deuxième sélection, c'est les fils conducteurs de Guillaume Poix. Chez Vertical, alors là aussi c'est des enfants dont il est question.
Oui, exactement. Alors là pour le coup on part en Afrique, au Ghana, en Nag Bog Blochi, un terme qu'on ne connaît pas et qui pourtant désigne la banlieue d'Accra où atterrissent nos déchets électroniques, ceux des pays industrialisés. Donc dans cette décharge, il y a des enfants qui travaillent à récupérer tout ce qui est encore en bon état ou des matériaux précieux qui peuvent être revendus par des revendeurs qui se font de l'argent sur cette main d'œuvre qui, bien sûr, la plupart du temps, ne vit pas au-delà de ses 20 ans. Donc là, on suit Jacob, qui lui a 11 ans et qui a abandonné l'école pour faire ce travail-là. Donc il va « shipper », entre guillemets, c'est son langage, sur la bosse, en compagnie d'autres jeunes qui sont pareils, plus ou moins bienveillants envers lui. Et il va rencontrer un Français qui est là pour faire des photos. Et c'est là que le pire va se produire. J'en dis pas plus, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que l'auteur, il a un sens de la formule qui permet pour nous de pas oublier un petit peu ce désastre auquel on contribue, et que les enfants, ils ont leur langage qui est fait d'argot, d'expressions un peu inattendues, et on est vraiment au plus près d'eux, quoi. Donc c'est un roman qui est nécessaire, extrêmement violent jusque dans son dénouement, mais vraiment nécessaire, j'insiste.
Et puis pour terminer, un peu plus léger, c'est une bande dessinée poétique.
Ouais, c'est Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied d'Alain Cocor et Pascal Rabaté, où là pour le coup c'est clair que c'est carrément poétique et beaucoup plus léger puisque le héros il a choisi ce mode de vie, ce vagabondage. C'est un poète qui parcourt les villes et les campagnes pour vendre ses vers en guise de quelques pièces de monnaie ou un hébergement pour la nuit, et un jour il va tomber sur un adolescent qui s'appelle Kevin qui a décidé de fuguer parce qu'il veut être libre, et à ce moment là il va le prendre un peu sous son aile pour lui montrer qu'on peut trouver de la beauté partout, dans le ciel de la nuit, dans une boîte de raviolis qui boue. Donc c'est vraiment quelque chose, on a l'impression avec...
On savait déjà ça.
Ouais,
il suffit de regarder la boîte
raviolis,
de raviolis.
Non, pas vraiment. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les couleurs sont un peu chaudes, automnales, et on a l'impression que même les auteurs, ils nous invitent un petit peu à se mettre un peu en retrait et à voir un petit peu ce qu'il y a de paix et de beauté dans notre monde. Donc voilà, c'est absolument charmant, quoi.
Merci beaucoup, Anne-Sophie. Puis on vous retrouve bientôt. Et entre-temps, évidemment, on peut se procurer le magazine Page des Libraires dans toutes les bonnes librairies.
Merci.
C'est bien.
bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous continuons, nous, de parler du rapport de Dickens avec la norme, toutes les normes y compris, vous allez l'entendre, avec la norme littéraire. On parle aussi de Dickens voyageur dans cette seconde partie qui s'ouvre par une archive de Marcel Brion, interrogé en 1966 par Pierre Cipriot.
Ce qui me frappe chez Dickens, c'est le paysagiste. À l'époque où arrive Dickens dans l'histoire du roman anglais, il n'y avait pas encore eu de paysage. Si nous considérons ses prédécesseurs, si nous considérons Thackeray par exemple, il n'y a pas de paysage. Les personnages se meuvent dans un milieu abstrait, dans un milieu vide. Ils sont, en somme, sous une sorte de cloche. Il n'y a pas de nature autour d'eux, il n'y a pas d'arbres, et il n'y a pas de ville. Au contraire, quand nous ouvrons un livre de Dickens, nous sommes saisis immédiatement par la véhémence des images. Parce que Dickens étant essentiellement un conteur, le paysage chez lui n'est jamais immobile, il n'est pas plus immobile que le personnage n'est immobile, c'est toujours un paysage animé. Mais ce paysage a en même temps la physionomie, les couleurs, l'odeur du paysage réel qui l'a inspiré. Prenez par exemple dans David Copperfield, la description de la maison où est né Devil, cette maison qui s'appelle de Rookery, cette maison entourée de grands arbres dans lesquels nichent des corneilles. Prenez les marines dans David Copperfield, ces marines qui rappellent à certains moments des marines de Constable, ou même des marines de Turn, quand il y a des scènes de naufrage, par exemple. Mais ce que j'ai aimé surtout, et c'est peut-être parce qu'une récente relecture me l'a fait revivre davantage, ce sont les paysages de Paris et de la campagne française qu'il décrit dans A Tale of Two Cities, ce qui se passe, on pourrait dire, en duplex, à la fois à Londres et à Paris. Et surtout, les paysages de Martin Chuzzlewit. Je crois que là, Dickens a réalisé ses deux chefs-d'œuvre.
Stylistiquement, c'est un peintre, Charles Dickens, Nathalie Vanface.
Alors j'avoue que quand j'ai entendu cet extrait, au début, le mot paysage m'a un peu surpris. Mm-hmm. Parce que paysagiste, Dickens l'est sans doute, mais pas vraiment pour les paysages ruraux.
Oui, les paysages urbains.
Voilà, mais par contre, il excelle dans la description des paysages urbains, et en particulier donc Paris, certes, mais surtout la ville de Londres. Et la raison pour laquelle il est si fort dans la description de Londres, c'était qu'il était lui-même quelqu'un qui se promenait dans la ville. Ces descriptions... Alors, l'extrait parle de Martin Chuzzlewit où il y a une vision surplombante de la ville qui est saisissante. Mais en vérité, dans la plupart des romans de Dickens, c'est plutôt une vision de la ville au niveau de la rue. Parce que Dickens lui-même était marcheur, il était insomniaque, hein, donc il parcourait la ville pendant la nuit de bout en bout.
Il y a beaucoup de scènes de nuit aussi.
Oui, oui, oui. Notamment dans Oliver Twist, il y en a. Bon, on en trouve aussi. A Mutual Friend est également un roman très sombre. Hein, des scènes au bord de la rivière en particulier, hein, cette rivière qui à l'époque était absolument nauséabonde, il faut se rappeler, encombrée de déchets avec des gens qui vivaient au bord de la rivière qui détroussaient les cadavres en fait.
Enfin, tout Londres était une immense déchetterie, il y avait le smog aussi.
Absolument, le smog.
Qui vous prenait évidemment les poumons.
Tout à fait, et puis l'éclairage au bec de gaz, hein, donc avec une atmosphère un peu de clair-obscur, et notamment les criminels qui se promènent dans la ville, de préférence la nuit, pour ne pas être pris. Hein.
Donc la description, c'est primordial chez Dickens.
Oui, et c'est une description, je ne dirais que ce n'est pas justement juste de la description, c'est aussi un paysage mental, en fait. Hein, c'est un paysage qui est un peu... retravaillé par une subjectivité. Et Pierre Léris disait dans ses préfaces, dans une de ses préfaces à un des romans de Charles Dickens, que c'était aussi une forme de lyrisme du souvenir. Dickens était habité par le Londres aussi de son enfance. Et par exemple, quand il écrit le roman Little Dorrit, il précise que il n'y a plus que les murs de la prison au moment où il écrit, mais il la fait revivre en fait. Donc il fait revivre une ville. Voilà, il fait revivre aussi des éléments.
Comme il fait revivre toujours son enfance, quoi qu'il arrive.
Absolument.
Parce que c'est ça vraiment le centre irradiant de toute sa littérature.
Voilà, oui, oui.
Donc il y a les normes et les déviances sociales. Il y a aussi peut-être le rapport de l'écrivain avec la norme de ce que font les autres écrivains à cette époque-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment Dickens se situe par rapport aux autres écrivains de son époque, stylistiquement parlant, Nathalie Vanface?
Alors, les écrivains qui l'inspiraient le plus n'étaient pas forcément les écrivains de son temps, même si il avait des liens avec des écrivains comme Thackeray ou des écrivains comme Wilkie Collins, avec qui il avait une grande complicité. Il était en fait très inspiré par les écrivains du XVIIIe siècle. On retrouve beaucoup d'allusions à Robinson Crusoe, à Swift, mais aussi aux essayistes du XVIIIe siècle dans son œuvre en fait. Et il était aussi grand admirateur de Walter Scott, au point où en fait il voulait écrire comme Walter Scott des romans en trois volumes, mais en même temps il avait besoin de gagner de l'argent, donc il a inventé en fait la publication en feuilleton, qui est une autre forme de cadre en fait pour son écriture, cette publication dans les périodiques en fait. Et donc en fait il s'est éloigné du coup de cette forme de publication qui était la forme de publication disons normative avant lui en
fait. Mais peut-être aussi parce qu'il voulait toucher un très large public, et peut-être que le roman historique à la Walter Scott était moins vendeur entre guillemets que ce que lui a fait. Est-ce que stylistiquement il cherchait justement à atteindre un maximum de gens?
Oui.
Par un style empathique, mélodramatique?
Et il faisait feu de tout bois. Il faisait feu de tout bois puisqu'il était à la fois journaliste, mais aussi très intéressé par le théâtre, par toutes sortes de genres comme, par exemple, le roman comique, mais aussi le roman sentimental, le roman de Newgate. Donc tout ça, le roman gothique, tout ça nourrissait finalement son écriture, qui fait qu'il s'adressait à un large public, également par ce mode de publication tout à fait particulier qui faisait que c'était moins cher. Et puis, il interagissait avec son public parce que le mode de feuilleton faisait qu'il improvisait. Donc, il avait déjà une imagination débordante. Il avait du mal, justement, à imaginer les histoires d'un bout à l'autre. Donc, il improvisait au fur et à mesure, ce qui donnait parfois lieu à des situations un peu complexes où des négligences faisaient qu'on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il changeait les choses un peu au fur et à mesure en fonction des réactions de son public. Donc, oui, il s'est défini un style. D'ailleurs, il le dit, en fait. Il a comparé son style à du Bacon, en fait, où il y a différentes strates. Hein, donc, il y a une strate un peu tragique, une strate un peu comique, etc. Donc, je crois que l'idée du Bacon, ça peut être quand même peut-être une manière de définir peut-être le style de Dickens, en fait.
Est-ce que c'est un romantique? Est-ce que c'est déjà un réaliste? On pense un peu à Hugo quand on lit un certain nombre de ses livres, parce qu'il y a des personnages qui ressemblent beaucoup aux personnages de Hugo. Il y a aussi quand même une attention aux couches les plus défavorisées de la société. Est-ce qu'on peut le situer?
Oui, Hugo, je pense, est une bonne comparaison. Je ne peux pas m'empêcher toujours de penser, quand je lis Great Expectations, à Jean Valjean. Gavroche aussi, hein, The Artful Dodger, c'est un petit Gavroche. Hein, Oliver Twist peut-être moins. Et il y a cette veine romantique chez Hugo, même s'il y a aussi le réalisme de la peinture de ces misérables, en fait, que l'on retrouve chez Dickens. Et Dickens s'éloigne peut-être un peu des excès du romantisme, voilà. Mais on ne peut pas c'est pas un réaliste au sens de Zola, par exemple. Il n'y a pas cette dimension scientifique. Et je crois qu'il y a un passage de Jean Gattegno sur Dickens qui je crois résume en fait le réalisme de Dickens. Gattegno compare Balzac et Dickens et dit ben Balzac en fait quand il décrit la pension Vauquer, il utilise beaucoup de métonymie, donc on voit bien l'objet, tandis que Dickens lui utilise énormément de métaphores, et la métaphore en fait au lieu de décrire l'objet, elle le métamorphose, elle le transforme, si bien que l'objet devient ambigu, insaisissable. Et je crois que ça, c'est vraiment Dickens en fait. Thank you.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Nathalie Vanface, vous avez également publié en 2017 un livre intitulé « La plume et la route, Charles Dickens, écrivain voyageur ». Et je vous propose de terminer cette émission justement sur cette thématique du voyage. C'est vrai que a priori, on ne le voit pas comme un grand écrivain voyageur, vous le disiez à l'instant, il ne fait pas de description de paysage, c'est plutôt quelqu'un qui va décrire la ville, la population de la ville. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, Nathalie Vanface.
Oui, en fait, il est parti aux États-Unis deux fois de suite, une fois dans les années 1840, puis pour faire plus tard, dans les années 60, pour faire une tournée de lecture publique.
Alors là, il faut dire qu'il a été extrêmement déçu par les États-Unis, d'autant qu'il avait de grandes great expectations, envers ce pays.
Oui. Il espérait un petit peu, donc il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les États-Unis, c'était quand même très loin. Donc déjà, pour y aller, c'était toute une expédition. On ne savait pas si on allait revenir et il avait laissé toute sa famille quand même derrière lui. Il n'avait que sa femme à ses côtés. Ses enfants étaient restés en Angleterre. Et en fait, certains pensaient qu'on pouvait même y aller en diligence, si vous voulez, aux États-Unis. Donc c'est vous dire à quel point... Donc les États-Unis, c'était quand même un monde un peu comme une fiction. Et Dickens se disait que les Américains avaient écrit leur propre histoire et qu'il y avait peut-être des choses à prendre pour contrer finalement les problèmes liés à l'industrialisation en Grande-Bretagne, à l'urbanisation, et que peut-être qu'il allait pouvoir prendre des éléments là-bas pour écrire de nouveaux scénarios en Grande-Bretagne. Donc c'était l'idée que les Américains avaient inventé leur histoire et que cette histoire peut-être pourrait être transposée d'une certaine manière en Angleterre. Mais quand il est arrivé là-bas, évidemment, il a été absolument choqué par... Alors, il avait l'impression déjà de ne plus avoir de vie privée. C'est comme une rock star, en fait. Donc, une espèce d'intrusion dans sa vie. Un parcours qui était vraiment à la minute près. Des problèmes de copyright. Toutes ses œuvres étaient pillées par de tous côtés. Donc, il perdait beaucoup d'argent. Et puis, alors, il était frappé par la vulgarité, la corruption. Et puis... Je crois qu'il a eu une clairvoyance sur les problèmes des États-Unis que l'on retrouve aujourd'hui. Il a quand même souligné pendant son voyage les problèmes de raciaux. Il a fait un réquisitoire contre l'esclavage. Mm-hmm. La violence des armes, en fait. Il y a un long passage sur les violences liées aux armes. Et puis la corruption de la vie publique, en fait. Donc une rare clairvoyance qui fait que son espèce d'utopie s'est renversée en une forme de dystopie où, justement, ses descriptions gothiques, grotesques, il a pu s'en donner à cœur joie.
Donc il y a eu les États-Unis qui étaient aussi un voyage dans le futur quasiment. Oui. Pour lui. Ce qui serait en revanche un voyage peut-être dans le passé, ce serait le voyage en Europe et peut-être en particulier en Italie, Nathalie Vanface.
Oui, il est allé en Italie en partie pour des raisons financières, parce que voilà, ses œuvres ne se vendaient pas très bien et que c'était moins cher d'aller vivre sur le continent. Donc là, cette fois, il emmène toute sa petite famille. Donc il traverse la France.
Il a toujours aussi envie de bouger parce qu'il se sent mal en permanence là où il est. Ça, c'est aussi un trait de caractère de Dickens.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui est assez instable, mais en même temps, il a l'inspiration lui vient quand même de la ville de Londres. Donc il a ce besoin d'y retourner. D'ailleurs, pendant son voyage en Italie, il va faire un aller-retour en Italie. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'Italie, c'est plutôt l'Italie du passé, même si, en fait, il refuse de se couler dans le moule de ce qu'on appelle le Grand Tour, où on allait parfaire depuis le XVIIIe siècle son éducation sur le continent. Là, on allait regarder les antiquités, les tableaux de maître. Et Dickens dit, moi, ça, tout ça, je ne veux pas en entendre parler. Moi, ce que je veux, c'est découvrir les Italiens, la vie italienne. Alors, il le fait, sauf que... et la vie française en passant par là, sauf que à chaque fois il a l'impression de trouver des caractères comme la saleté, la cruauté aussi. Donc il est fasciné en France par le palais des papes, le palais des doges, donc des scènes de torture, l'inquisition, le Colisée, parce qu'il pense que les Romains sont barbares. Et donc tout ça, finalement, revient à dire que ce sont des pays un peu arriérés du fait de leur régime plutôt tyrannique et de la religion catholique qui prévaut dans ces pays-là. Donc, D'un côté, il veut...
Lui qui est, évidemment, et on aurait pu en parler sur la question de la norme et de la déviance, plutôt du côté, allez, protestant, pour aller vite.
Voilà, voilà. Donc il y a cette espèce de paradoxe où il veut moderniser le récit de voyage sur le continent, et en fin de compte, il se retrouve à regarder vers le passé, sans forcément voir, voilà.
Donc il faut lire, les American Notes, qui datent de 1842, les Pictures from Italy, ça a été traduit, ça, en français ?
Oui. Oui, oui, il y a eu des traductions, en fait, qui sont tout à fait remarquables, en fait, de ces ouvrages. Donc, oui,
pour
tout à fait à recommander, absolument.
La géographie humaine, puisque finalement, c'est de cela qu'il est question dans les récits de voyage de Dickens.
Tout à fait, voilà, c'est cette attention aux personnes, voilà, plus qu'aux paysages, oui.
Merci beaucoup Nathalie Vanface. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Charles Dickens, Entre normes et déviance, paru en 2007, c'est aux presses universitaires de Provence. Également de ce livre dont on n'a pas eu le temps finalement de parler beaucoup, mais que je conseille aux auditeurs, La plume et la route, Charles Dickens, écrivain voyageur, c'est aux éditions Textuelles. Demain dans la compagnie des auteurs, on continue évidemment de parler de Charles Dickens. Isabelle Gadouin de l'université de Poitiers viendra nous parler de ses fantômes. Mais tout de suite, comme chaque jour, c'est la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie. Toxicomane de la parole. Je m'endors sous son poids. Est-ce moi qui écris le poème ? Est-ce le poème qui m'écrit ? Anis Koltz. Nous sommes avec Gérard Noiret, poète, et Anis Koltz, poétrice, auteure de Somnambule du jour, commenté par Noiret dans l'excellente revue Internet En attendant Nado. La volonté constante d'Anis Koltz de dissocier celle qui écrit de celle qui vit, au point que cette dissociation est avec la mère, la mort, le compagnon disparu et l'iconographie chrétienne un des noyaux irradiants. Enterrer le jour dans une taupinière et oublier dans laquelle. Un langage profond, c'est-à-dire de ces phrases venues d'on ne sait où, qui subvertissent le langage en lui imposant des rapprochements inattendus, des modifications de lieux communs, des expressions détournées. Le langage profond dont Aragon parle à sa façon dans les chroniques du Bel Canto n'est pas sans me faire penser à ces parcelles que convoitent les chercheurs d'or qui passent au tamis l'eau d'une rivière. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mètres cubes filtrés, mais le nombre de pépites trouvées. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de pages écrites par Anis Koltz, mais ce qu'elle en prélève. Béni soit le serpent qui m'a pris la désobéissance. Je me purifie, je ne prie plus. J'allume le feu de mon enfer et je chante. Anis Koltz est une des rares poètes chez qui le minerai ne s'est pas épuisé, qui a su l'extraire puis le traiter grâce à une inventivité exigeante qui doit certainement beaucoup à la richesse linguistique de son milieu d'origine et à la fréquentation des meilleurs auteurs, car bien sûr la poésie ne peut être ramenée au seul langage, et encore moins au seul langage brut. Il ne suffit pas aux comédiens d'avoir de la présence sur scène, aux chanteurs d'avoir du gospel dans la voix. Tout au long de son existence, Anis Koltz a su chaque fois découvrir quelque part en elle les moyens de tirer parti de ce qui faisait irruption sous sa plume. Attentive aux différences d'intensité de ses mots, ouverte aux associations virtuelles, elle a su trouver les coupes, les silences, les accentuations, les titres et les temps de vibration propres à convertir en poème ce que d'autres auraient raturé. Oui, des millions d'années hurlent en vain dans nos bouches. La parole est impuissante, elle a le monde entier contre elle. Rien n'existe sans moi. Tout naît sous mon regard, au toucher de mes mains. À ma mort, j'emporterai ce monde, l'immolant au feu, aux flammes multicolores. C'est beau, non ? Et oh, encore ces deux petits-là ! Non, nous n'appartenons pas à cette terre inabordable que nous occupons. Même l'océan porte des gants blancs pour la toucher. L'arbre. L'arbre est mon frère. Il est l'autre solution d'un même problème.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.